I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morse-Duncan. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, ce soir, Pascaline Podevin, Christophe Comté, Hugo Cassavetti pour parler ensemble de Dirty Computer de Janelle Monae chez Bad Boy Records, Persona de Rival Consoles chez Erased Tapes et Center Desire de JC Satan chez Born Bad Records. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute en fin d'émission. Ce soir, des DVD du film de Francis Lee, Seule la Terre, qui avait reçu l'Hitchcock d'or, meilleur film britannique au Festival de Dinard, un DVD distribué par Pyramide. À l'approche de la quarantaine, Janelle Monae ne livre ici que son troisième album studio, parcimonie assez rare dans l'industrie discographique singulièrement nord-américaine. Il est vrai que la musicienne est aussi actrice, prestation remarquée dans l'oscarisé Moonlight notamment. Après un premier extrait qui sonnait comme un hommage à Prince, on se demandait quelle couleur allait avoir le reste de l'album. On va en parler avec nos critiques après avoir écouté Django Jane.
Yeah, yeah, this is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Or we gon' have to put them on a pussy diet. Look at that, I guarantee I got them quiet. Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there. Straight out Kansas City, yeah, we made it out there. Celebrated, graduated, made it pass fail. Sassy, classy, Kool-Aid with the kale. Mama was a G, she was cleaning hotels. Papa was a driver, I was working retail. Kept us in the back of the store, we ain't hitting no more. Moonlit, nigga, lit, nigga. Already got the Oscar for the Casa. Running down Grammys with the family. Probably give a Tony to the homies. Probably get an Emmy dedicated to the highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, we highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, Geminati still jamming. Box office numbers and they doing outstanding. Running out of space in my damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it. Y'all can't ban it, made out like a bandit. They been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe. And I Django, never Sambo. Black and white, yeah, that's always been my camo. It's looking like y'all gon' need some more ammo. I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh. Now, damn right for the angle. I got away with murder, no scandal. Cue the violins and violas. We gave you life, we gave you birth. We gave you God, we gave you earth. We film the future, don't make it worse. You want the world, well what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris. In the darkest hour, spoke truth to power. Made a bandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind. And paint the city pink, paint the city pink. And tuck the pearls in, just in case the world in. And nigga down dog, nigga move back. Take a seat, you are not involved. And hit the mute button. Let the vagina have a monologue. Mansplaining, I fold them like origami. What's the way, baby? This a tsunami. For the culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the GOAT, now would anybody doubt it? If she the GOAT, now would anybody doubt it? Huh? Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it.
Thank you.
Janelle Monae, le morceau s'appelle Django Jane. Et l'album, tiens, comment il s'appelle ? Dirty Computer, je crois que je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Pascaline, faut de vin pour commencer sur le retour de Janelle.
Alors, le retour de Janelle, moi, me déçoit un petit peu. Parce que on s'attendait à un grand album un peu afro-futuriste, ce qu'elle avait déjà amorcé sur ses précédents disques, qui serait un peu à la pop, ce que Black Panther a été récemment au cinéma. Donc quelque chose d'afro-futuriste, de militant, d'innovant, un succès commercial. Le succès commercial, je pense qu'elle va peut-être le trouver parce qu'effectivement, il y a des tubes sur cet album. Est-ce que ça va vraiment exploser, être des tubes de l'été ? Mais en tout cas, ils en ont le potentiel. Je pense à des titres comme Make Me Feel ou Screwed, qui sont très fun, très légers, avec des refrains qui restent bien en tête pour l'été. Après, il y a un casting aussi énorme, un casting très branché. Sur l'album, on trouve des featuring de Brian Wilson, de Zoé Kravitz, de Grimes, de l'incontournable Pharrell, qui est partout, tout le temps.
Ils sont plusieurs, en fait, j'ai eu l'information.
De Stevie Wonder et de Prince, donc des featuring posthumes. Prince ne chante pas, ne joue pas, ou alors on le sait pas, mais on sait qu'il a... Il a été c'est son mentor, il aurait collaboré à l'album. Et effectivement, on entend clairement des accents princiens sur des titres comme Screwed et Make Me Feel et Americans.
C'est presque du plagiat, hein, sur Make Me Feel.
Presque du plagiat sur Americans. Là.
Oui.
Ouais. Americans.
Davantage encore.
Ah
selon
oui.
Vous.
C'est Let's Go Crazy American. Ouais. Clairement. Ouais. Voilà. Donc. Un album qui est mal. En fait, son problème, c'est que voilà, il y a des choses efficaces, il y a un gros casting, mais l'album est un peu lisse, moins effervescent, moins progressiste, moins innovant que ce qu'elle a pu faire par le passé. Après, ce qui la sauve, c'est que c'est un album qui est féministe, qui est militant, antiraciste. On l'attendait là-dessus, puisque c'est des combats qu'elle mène depuis longtemps, mais elle le fait bien. Et notamment, moi, il y a une chanson qui me touche, qui s'appelle Pink. Il y a un clip qui est pas mal aussi où on la voit danser dans le désert avec ses copines et avec des espèces de grands pantalons larges en forme de vagin. Et Pink pour décrire l'intimité féminine. Et pour moi, c'est un bon témoignage de ce que peut être le girl gaze appliqué à la musique. Donc, qu'est-ce que c'est le girl gaze ? C'est une notion qui est en train d'apparaître, qui est encore à définir, qui s'attache plutôt au cinéma ou à la série, qui est en fait de parler de choses féminines avec un regard féminin. Et cette chanson-là, pour moi, c'est vraiment ça. On parle d'intimité féminine. C'est une femme qui en parle. C'est une femme qui en parle avec des mots presque crus, sans fausse pudeur, avec bienveillance. Et en ça, je trouve qu'on a quelque chose d'assez intéressant et assez nouveau. Donc voilà, niveau musical, un peu déçu, mais le discours derrière, je le trouve intéressant et louable.
Bon, un peu de man gaze sur l'album de Janelle, Christophe Comte.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Pascaline, parce que Janelle Monáe, c'est quelqu'un sur lequel on a fait peser beaucoup d'espoir depuis à peu près 10 ans maintenant. Son premier album daté de 2008-2009, mini-album, où elle avait un univers comme ça emprunté à Metropolis, donc déjà c'était pas mal, une chanteuse frinslangienne, c'était étonnant dans
c'est
ce
pas,
milieu
pas
de
gagné,
R&B. Et puis en plus elle avait développé comme ça cette espèce de personnage qui était un personnage transhumaniste, et d'une certaine manière on pouvait y voir une sorte de critique de ce qui commençait à poindre dans le milieu du R&B, c'est-à-dire toutes ces créatures, les Beyoncé, Rihanna, qui au bout d'un moment devenaient des créatures presque robotiques fabriquées en laboratoire, et on avait l'impression qu'elle faisait la critique de ça en se présentant comme un robot d'une certaine manière, ce qu'elle a un peu développé ensuite sur son premier véritable album. Et puis ça s'est un peu perdu en route quand elle a fait l'avant-dernier album, je ne sais plus comment il s'appelait, où là il y avait un côté un peu Diana Ross avec toute une tribu de danseuses. Enfin, d'un coup ça devenait beaucoup plus commun finalement, toute son imagerie afro-futuriste justement se délayait dans quelque chose qui était plus de l'entertainment R&B assez classique. Les chansons devenaient aussi un peu plus banales parce qu'elle avait un côté très singulier sur son premier mini-album qui existait aussi sur son premier album, et qui petit à petit se transforme en quelque chose d'assez... Quand j'ai écouté cet album, alors effectivement, il est très divers, il y a des morceaux très beaux, et il y a des morceaux, on a l'impression d'entendre Katy Perry, de la pop mainstream, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors c'est étonnant d'entendre Brian Wilson, ou en tout cas une sorte de chorale qui imite Brian Wilson.
C'est le morceau d'ouverture en plus.
Oui, alors c'est
deux minutes.
C'est très beau, on entend les chœurs des Beach Boys.
Ça commence très bien quand même.
Voilà, ça commence très bien, et puis petit à petit, bon, leur Pharrell est totalement fantomatique comme d'habitude, je pense qu'il a un hologramme qu'il envoie en studio pour je sais même pas ce qu'il fait d'ailleurs. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir son nom sur la pochette, même si maintenant c'est un peu dévalué vu qu'à part l'album de La Rousseau, je pense qu'il n'y a pas.
Et je crois qu'il fait un featuring aussi avec La Rousseau. Hein.
Je sais même pas s'il y a un album de La Rousseau d'ailleurs, mais enfin bref.
Par Skype.
Il est vraiment partout. Et en dehors de ça, c'est vrai, alors qu'il y a quelques morceaux qui sont très forts où les mélodies se retiennent immédiatement. On se dit évidemment, on va les entendre partout. Et en même temps, c'est quand même un peu Janelle Monáe, un peu l'outsider de cette scène, parce qu'elle a jamais vraiment franchi ce cap qu'ont franchi les autres. C'est pas une superstar. Je suis même pas certain qu'en France, cet album marche beaucoup, parce que...
Elle n'est pas identifiée, Janelle Monáe.
Elle n'est pas tellement identifiée. Alors, elle est, en plus, bon, c'est toujours pareil, ces albums qui sortent. Il est sorti il y a quelques jours. On n'avait pas pu l'entendre avant. Enfin, il y a un côté comme
Sauf
ça.
Sauf les privilégiés voilà, comme Pascaline qui a été.
Ils essayent de faire comme ça autour d'elle, de mettre en place cette grande mécanique du secret.
On n'en peut plus, ça, non ?
Oui, on ne peut plus. Puis en plus, on s'en fout. Parce qu'une fois qu'on l'a écouté, qu'il est présent sur toutes les plateformes de streaming, on va se rendre compte très vite. En fait, il y a 3 morceaux que les gens vont écouter. Et puis, je ne sais plus combien il y a de morceaux sur l'album.
Une douzaine,
mais il y en aura les 8-10 autres que personne n'écoutera. Et c'est un peu dommage parce que c'est peut-être parmi ceux-là qu'il y aura des morceaux un peu plus singuliers. Après, c'est un disque, très honnêtement, j'ai écouté beaucoup de fois très rapidement parce qu'effectivement, on l'a vu très tard. J'en ai retenu quasiment rien. C'est un peu comme ces choses, ces films, ces blockbusters qu'on voit. Et puis, on comme le dernier Spielberg, je suis allé le voir. Je ne saurais même pas vous dire à quoi ça ressemble 15 jours après. Donc, voilà, c'est du mainstream. Je trouve que ça n'a rien de singulier. Et c'est dommage que cette fille qui avait ça en elle au départ l'ait un peu perdue en route.
J'aime bien le concept du beaucoup de fois très rapidement.
Hugo Castagnetti.
La grande difficulté, c'est écouter attentivement et longuement un disque. Mais c'est vrai que je trouve que ça résume tout le problème qu'on a.
Alors, le deuxième Mel Gaze.
Alors, sur le constat que vous partagez, je partage exactement le même. Après, on peut rentrer dans le détail de beaucoup de choses. Mais déjà, juste en écoutant Pascaline, le concept de Pink et tout, il faut juste rappeler qu'il y avait un album de Tori Amos qui s'appelait Under the Pink il y a plus de 15 ans, qui était exactement sur ce propos-là. Donc, c'est très bien, ce propos-là, exactement du point de vue d'une femme, de l'intérieur et le pink étant effectivement. C'est l'intérieur du sexe féminin, tout ce qui est rose et d'aller à l'intérieur. Donc ça a déjà été beaucoup fait. Non, c'est drôle parce que l'autre mot qui revient, c'est problème. Et problème avec Janelle Monáe, c'est qu'on a envie de l'aimer. Elle existe depuis maintenant 10 ans et que c'est quelqu'un qui est empêtré. Voilà, elle aimerait être la Bowie du R&B ou un croisement de Prince et de Bowie, mais que tout est... oui, ce que je trouve intéressant, voilà, c'est que ce disque est vendu en plus et elle le présente comme « Enfin, j'ai fait le disque que je voulais faire depuis 10 ans. Vraiment, là, c'est moi, personnel. Je vais au bout des choses que je voulais vraiment raconter. Avant, j'étais avec mon personnage futuriste. Je le suis toujours, mais je sais pas. » Elle s'en mêle un peu les pinceaux avec tout ça. Et que c'est en gros ce qui lui nuit, c'est ce qui nous a attiré au début, ce look futuriste un peu étrange. Les disques n'étaient jamais à la hauteur. Moi, Janelle Monáe, j'ai été plutôt séduit. Étrangement, c'était en concert une fois. Et je crois que c'était pour ce disque un peu plus ou moins intéressant le deuxième. Mais je m'attendais tellement à un truc tellement carré, cadré. Bizarrement, c'était assez chaleureux. Et là, je suis étonné par ce disque parce qu'il est, il y a beaucoup de morceaux efficaces qui se tiennent de NB. Celui qu'on a écouté, c'est pas le préféré, mais c'est peut-être le plus pur entre guillemets, qui est pas surchargé. Il y a quasiment qu'elle. En plus, je trouve qu'elle est sur le terrain de ce quasi rap. Elle a une voix, elle a une présence. Et là, il y a quelque chose d'un peu qui concorde avec cette image qu'elle a. Elle est presque, effectivement, elle est plus connue comme actrice maintenant. Que ce nom qu'on connaît vaguement, elle n'a jamais eu de succès réellement, elle n'a jamais eu de tube. Et après, moi, il y a quelque chose, ce côté mainstream de featuring, c'est pas que Pharrell, quoi. C'est ma culture et que ça qui me. C'est étonnant de se positionner comme étant vraiment actif, féministe, individualiste, défendant ça, et en même temps pour produire des disques qui sont tous les mêmes, interchangeables et tout. Alors je suis peut-être. J'essaie d'imaginer, je sais que la culture a changé, Olivier Lam serait là, il nous explique pourquoi, Rihanna, tout ça, ce qu'il fait chaque fois, mais j'essaie d'imaginer, imaginons que les Beatles, les Stones, les Kings, que chaque fois qu'ils sortaient un disque dans les années 60, sur chaque disque, t'avais tel morceau, il y avait tel morceau featuring Paul McCartney, featuring Ray Davis, featuring Pete Townsend, et il n'y aurait que ça, et tous les disques auraient eu les mêmes gens, donc les mêmes sons à l'arrivée, et c'est interchangeable. C'est un disque de Janelle Monáe, moi, de plus en plus, je pense qu'on me boucherait le... Voilà, on ne montrerait pas qui c'est, j'ai de plus en plus de mal. Et c'est vrai que ça va de Katy Perry à Kanye West et tout, des fois. Alors, de temps en temps, on les reconnaît, quoi. Mais il y a une banalisation que je ne... moi, j'ai du mal à comprendre. C'est du branding, quoi. Il faut la marque coller avec ça. Et je trouve que c'est un peu dommage sur un projet qui était sur le papier, tel qu'elle le définit assez fort. C'est une personnalité quand même intéressante, Janelle Monae, et qu'elle fait un disque qui est loin d'être mauvais en plus. Et effectivement, il est très efficace comme disque agréable de R&B avec des chansons fortes. Voilà, ça serait fait. Avec la référence à Prince qui est là, bon, c'était réellement son mentor, mais c'est vrai que les morceaux, on dirait des. Oui, comme je suis d'accord, c'est quand même quasi du plagiat. Et voilà, on va picorer un ou deux morceaux, mais c'est quand même. À l'arrivée, c'est un disque générique de qualité, plutôt qu'un disque avec une réelle personnalité.
Oui, mais c'est sûr que cette question des featuring, c'est intéressant parce qu'on a quand même. Si on veut avoir un album de Janelle Monae, on ne s'attend pas à avoir cette liste. Chaque featuring édulcore la singularité, mais c'est vrai, alors de quantité d'albums, aussi bien évidemment en France qu'à l'international, quel regard vous avez sur cette question-là des featuring envahissants soulevés par Hugo Cassavetti, Pascaline?
Non, moi déjà, c'est vrai que sur ce disque-là, là où je trouve que c'est singulier, c'est qu'effectivement, on les entend même pas en fait.
Parce que Christophe il y a leur nom
disait,
sur la pochette.
Voilà,
quoi.
C'est que. Donc en fait, je vous rejoins tous les deux.
Ouais.
C'est que Christophe
à part Motion ou Weekend qu'on reconnaît.
Voilà,
quand ils sont
mais là Pharrell, on l'entend. Pas Grimes, je sais pas où elle est. Zoé Kravitz, je sais pas
elle
où elle est.
De toute façon, on sait pas qui c'est.
Si, on sait quand même qui c'est. Mais bon, en fait, je rejoins Hugo quand il dit que c'est du branding. Effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tous ces featuring, c'est branché, c'est pour donner un saut de branchitude.
Oui, mais quand tout le monde les a, ce que disait Kravitz,
exactement,
je crois,
c'est
ça commence
bon
à se caler.
C'est là où elle fait une erreur.
Bah, je pense qu'à la base, c'est aussi quelque chose qui est lié à la culture du hip-hop et du R&B, qui est aussi une manière de suivre ce qu'est aujourd'hui la consommation musicale et l'arborescence que les gens créent, parce qu'ils voient tel featuring, ils cliquent dessus sur le truc de streaming, ils arrivent sur un autre qui est sur... Et c'est tout ça se mélange. Au bout d'un moment, on se demande comment ces gens ont le temps matériel de venir faire des featuring auprès de tout le monde, parce qu'à chaque fois, souvent, on leur demande d'écrire des parties. Enfin, et souvent, en plus, c'est vain, parce que ça ne ressemble à pas grand-chose. Chacun... Alors, après, quand c'est un featuring comme celui de Brian Wilson, c'est un peu décalé, il y a un clin d'œil.
On l'a remarqué, du coup.
Oui, on l'a... Puis en plus, il est au début. S'appelle Dirty Computer, le morceau. Alors, on se dit, il y a peut-être un message là-dedans. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez sympathique à entendre.
Ça, oui, lui, il est original.
Entendre Barry Woodson, comme on pourrait entendre. Bon, Stevie Wonder, on sait qu'il fait des featuring où il fait un coup d'harmonica. On sait même pas si c'est lui qui les fait, mais il est souvent là. Bon, il y a un truc comme ça, c'est des madeleines qu'on place. Ça dit pas grand-chose au public que ça cible, hein, parce que franchement, Brian Wilson, je pense que personne parmi les gens qui vont écouter Janelle Monae, qui ont 20 ans ou 16 ans, savent qui est Brian Wilson, mais c'est pas très grave, ça rajoute là pour le coup une valeur quand même qui est celle des chœurs Beach Boys, même si n'importe qui pourrait les faire aujourd'hui, et mieux que Brian Wilson d'ailleurs, mais en tout cas, et voilà, là ça se justifie un peu quand c'est Pharrell Williams, là pour le coup, c'est vraiment devenu l'ectoplasme contemporain.
Et dans la question de la consommation aussi, pour une fois, parce que chaque fois vous me dites les clips. Alors j'ai regardé les clips à l'avance, parce que ce que je fais pas d'habitude, mais comme on n'avait pas le disque, on a regardé des clips aussi pendant un moment. C'était une façon d'avoir quelques morceaux de Janelle Monae. Et alors elle est passée de Fritz Lang à Black Mirror, parce que c'est Make Me Feel, là, qui est une reprise de San Junipero, l'épisode de bien connu de Black Mirror, avec des clips. Effectivement, c'est important aujourd'hui. Alors peut-être pas pour nous qui sommes censés parler des disques et rien que des disques, mais ça fait absolument partie de la façon dont on consomme la musique, Hugo Cassavetti.
C'est important, j'ai l'impression que ça l'est moins que dans les années 80 où c'était le règne du clip.
Ouais.
Avec MTV.
Ah, ça l'est redevenu avec
et ça l'est parce que les gens s'en voient.
C'est ça, regardez Despacito, le titre a été c'est le titre le plus vu sur YouTube, pas parce qu'on a regardé le clip, parce qu'en fait les gens l'écoutent en le
mettant sur les plateformes de
oui, mais regarde là-dessus ou
vidéo.
En streaming.
Oui.
Mais l'image est beaucoup moins importante qu'avant. Des fois, il y a quelques grosses
productions. C'est très travaillé, Janelle Monae, pour le coup, ce sont des très beaux clips.
Et c'est ça qui est assez injuste, je pensais à ça quand c'est Rihanna, Bitch and My Money, c'est que du coup, les gens ont moins de budget, et c'est seulement les plus gros qui ont les moyens qui arrivent à encore se vendre par des clips. Donc tout ça, et quand je dis dans les années 80, tout le monde faisait des clips.
C'est ça. Que les clips permettent aujourd'hui aussi de faire passer des messages que la musique ne fait pas passer, c'est-à-dire qui sont aussi des messages souvent un peu pipeau, mais en reprenant les codes des Black Panther, en faisant tout ce maelstrom contemporain et confusionniste, mélangeant des combats très noble avec des paires de baskets.
Oui, entre Black Lives Matter,
j'ai c'est... peur des paires de quoi
c'est un peu ça. Sur le clip de Make Me Feel, c'est qui est une ode à la
sexualité. C'est un peu ça, et tous ces disques-là sont des monstres qu'on verra peut-être dans des années futures comme des choses tellement symptomatiques de notre époque, ou alors tout ça va continuer, parce que ça peut surenchérir, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on va se dire que c'est too much quoi, d'arriver comme ça avec ces clips où il y a un peu tout, c'est-à-dire à la fois on essaye de donner du sens.
On est contre Trump et en même temps on monte les baskets, mais c'est tout, les dernières baskets.
C'est tout le problème quand même de ces artistes qui sont, là on le voit en ce moment avec Kanye West qui est encore parti complètement en vrille, on ne sait plus très bien où il se situe. C'est-à-dire
Kanye West qui tweet que Trump est son frère.
Oui, voilà, non, mais il est en plein...
on l'a perdu.
Mais bon, on le perd souvent.
Il revient, il ne va pas revenir.
Il reviendra.
Moi, ce que j'ai trouvé à la fois très culotté et un petit peu malaisant de la part de Janelle Monáe, ouais, qui a déclaré il y a quelques jours qu'elle était bisexuelle, qui a donc fait une déclaration
pansexuelle.
Ouais. Bon, elle est pansexuelle.
Pansexuelle. Bon, elle a fait une déclaration qui, encore aujourd'hui aux États-Unis, a un poids quand même assez fort. Mais le fait de le faire la veille de la sortie de son album, on se dit qu'il y a quand même...
Oui, avec le clip aussi de Make Me Feel qui parle de ça.
Donc il y a un côté, c'est tout ça est quand même toujours un petit peu manipulateur. Et là, on voit fleurir plein d'articles qui disent « Ah, c'est formidable, un coming out ». Bon, c'est petit aussi, comme disait Hugo, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement identifié en dehors de son travail d'actrice aujourd'hui. Cette façon-là d'attirer la lumière vers elle sur un sujet encore assez sensible aux États-Unis, c'est peut-être une manière de vendre son disque. Et là, on est encore dans ce truc un peu, je trouve, je sais pas, dangereux, pas dangereux, mais en tout cas un peu
trouble.
Moi, me met mal à l'aise un peu.
Allez, dernier mot, Pascal Podvin.
Non, mais cette question me met mal à l'aise. Il m'est arrivé de la poser à des artistes ou des intellectuels féministes sur, est-ce que cet argument, que ce soit le féminisme ou la défense des droits LGBT, tout ça devient un argument de promo. Et souvent, elles me disent, en même temps, si ça permet de faire passer un message...
La visibilité, quoi.
Voilà, tant mieux.
Le message.
Donc, je me dis, moi aussi, je suis partagée, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on m'a dit, si ça permet à des jeunes filles, et peut-être qu'elles ne seront pas effectivement hyper nombreuses, noires, d'écouter Janelle Monáe, des jeunes filles queer, et de se dire, j'ai un exemple, quelqu'un qui me ressemble et qui est meilleur dans sa peau, si ça peut en aider certaines, si ça peut libérer une parole, pourquoi pas.
Nous avons libéré nos paroles sur le disque de Janelle Monáe, Dirty Computer, qui est sorti chez Bad Boy Records. Nous allons parler ensuite dans la dispute de Rival Consoles et de JC Satan.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et la suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique, donc avec un disque suggéré par Christophe Comte, dont je dois bien dire qu'au début de l'écoute, j'aurais plutôt pensé à une suggestion d'Olivier Lame. On parlait la semaine dernière des chorégraphies inspirées des films d'Ingmar Bergman. Cette fois, il s'agit d'un disque intitulé « Comme l'un des opus du maître suédois Persona ». Ryan Lee West, le musicien, donc qui se cache derrière le nom de Rival Consoles, ça a en effet été marqué, raconte-t-il, par une séquence du début du film où on voit un jeune garçon aller vers un écran de cinéma sur lequel est projeté le visage d'une femme pour essayer de la toucher. Bon, ça c'est la petite histoire. Disons qu'il a été enregistré dans son studio londonien, Persona, qui mélange des influences, on va en parler. On va écouter tout d'abord un extrait « Sons Abandoned ».
You.
Rival Consoles. Le disque s'appelle Persona. Parole est à Christophe Lam. À Christophe France, pardon.
C'est étonnant que vous soyez étonné que je choisisse ce disque, mais bon, je vais expliquer pourquoi.
Ça n'est pas trop électro, moi.
Ah bon, ben voilà.
Je sais pas.
Non, mais bon, il y a des
ça
choses
me réjouit,
qui m'échappent.
Hein. Ah ben voilà. Complètement. En fait,
j'ai découvert Rival Consoles il y a quelques années avec un album qui s'appelait All, je crois, mais je l'avais reçu. Et puis comme il n'y avait pas de nom sur la pochette, c'était un de ces disques qu'on reçoit et qu'on met dans la platine sans savoir de quoi il s'agit.
Ce qui est bien.
Et c'était plutôt une bonne chose parce que j'ai découvert pour le coup un artiste électro que je connaissais absolument pas et j'ai même pas cherché à en savoir beaucoup plus, simplement j'ai été totalement saisi par la chaleur incroyable qui se dégageait de ce disque qui a priori n'est pas un terme, la chaleur qu'on relie forcément à l'électronica notamment. Et d'un coup, j'ai senti quelque chose de très très fort à propos de ce disque. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ressemble pas au reste de la production. Je suis pas allé chercher beaucoup plus loin. J'ai beaucoup écouté ce disque et ensuite j'ai suivi un petit peu à droite à gauche ce qu'avait fait ce garçon qui est assez solitaire et qui appartient à la belle RST qui a quand même révélé Nils Fram notamment, donc des petites vedettes de l'ambiance électro, etc. Mais lui est resté un peu en fond de cour. C'était la première signature. Il est resté malheureusement un peu méconnu par rapport à ses collègues. Et là, il sortait cet album qui m'a intrigué parce que personnage. J'ai tout de suite pensé à Bergman en me disant bon, pourquoi pas après tout. Et puis en lisant. Comme vous l'avez dit, là, il y a cette histoire avec le générique, en tout cas les images de Bergman. Je ne sais pas après, quand un disque est instrumental, on peut toujours y coller des... Je pense que c'est sincère, il a certainement eu un flash pour cette image, il a certainement projeté quelque chose qu'on n'entend pas forcément sur le disque, mais peut-être quand même, malgré tout, qu'il y a quelque chose de bergmanien dans sa musique, je ne pourrais pas le déterminer. En tout cas, je trouve que c'est encore une fois un album très singulier dans la production électronique contemporaine. Je ne connais pas tout ce qui sort, mais j'en écoute un peu. Et là, j'ai encore l'impression d'entendre un disque qui ne ressemble à aucun autre. On a parlé de Daniel Avery il y a quelques semaines, qui est un disque très fort aussi, mais qui me semble un peu plus codé, qui n'a rien à voir avec ça. Là,
il y a quelque chose de très personnel, là, chez...
Oui, parce qu'à la base, c'est un guitariste qui a joué dans des groupes de rock, apparemment, que personne n'a jamais entendu. Puis à un moment, il s'est acheté un ordinateur et il a essayé de faire une musique où subsisterait quand même cette impression de jouer d'un instrument avec lequel on a plus de corps à corps qu'avec un ordinateur. Et donc il y a quelque chose comme ça qui reste de ça dans sa production. Et après, selon les morceaux, il varie entre des morceaux qui sont assez techno avec des beats assez forts, assez saccadés, et puis d'autres beaucoup plus ambiantes. Et je trouve que ce mélange, cette construction d'album est très très forte. C'est vraiment un album qu'il faut écouter d'un bout à l'autre. Là, on a entendu un extrait qui est pour le coup assez expressif, mais qui ne ressemble pas forcément au reste du disque. Donc, j'ai pas grand chose à en dire de plus, sinon que j'invite tout le monde à l'écouter avec toute l'attention qu'il mérite, pour voir se décanter des choses qui ne s'entendent peut-être pas à la première écoute aussi. Il y a beaucoup de couches et de moments comme ça, de rupture, qui, moi, me semble intéressant dans la production contemporaine. J'aimerais que ce garçon soit un peu plus amené à produire d'autres gens pour voir ce qu'il pourrait amener, justement, dans un univers un peu plus pop. Je pense qu'il aurait des idées de production pour quelqu'un comme Björk, par exemple, qui a beaucoup utilisé ce genre d'artiste. Il lui apporterait peut-être quelque chose ou d'autres, mais en tout cas, comme producteur... comme faiseur de son, je crois que ce type est assez haut placé aujourd'hui.
Bon, est-ce qu'il est haut placé dans l'esprit de Hugo Cassavetti?
Ah oui, même si je ne le connaissais pas, j'avoue que je le découvre et tout, parce que j'écoute assez peu d'électro et je l'ai écouté, et avec l'attention qu'il mérite, parce qu'effectivement ce genre de disque, il faut les écouter très attentivement, c'est un peu les anti-Janelle Monae, ou peut-être même J.C. Satan, qu'il vaut mieux mettre dans la pièce d'à côté... et voir ce qui reste. Là, c'est un peu le contraire. Il ne faut surtout pas le mettre dans la pièce d'à côté et faire autre chose. Sinon, ça peut devenir vite du ce qu'on appelle du papier peint sonore. Mmh. Et ce serait dommage parce qu'effectivement... Non, je souris de choses que vient de dire Christophe. Parce que ce que j'avais noté, justement, ça me fait penser à parfois les disques de Björk, mais sans Björk qui chante. Mmh. C'est-à-dire ce qu'elle fait avec Arca. Il y a des choses, on voit, qui sont un peu dans les mêmes sphères, de chercher à la fois... parce que quand Christophe dit qu'il y a des morceaux plus techno, justement, ce que je trouve assez agréable, c'est que c'est un disque extrêmement varié pour ce domaine. Quand on dit que les morceaux sont longs, ils dépassent jamais les 5 minutes, ce qui est plutôt court dans ce domaine-là, ce qui fait qu'il y en a une vingtaine, et que ça fait qu'il y a un changement de climat assez régulier. Après, je ne sais pas si c'est le hasard, parce que j'écoute pas beaucoup cette musique, mais il se trouve que la semaine dernière, avant qu'on parle de ce disque-là, je venais, c'est assez rare, mais de réécouter des disques. Ça, j'écoute régulièrement, c'est les 4-5 premiers Tangerine Dream. Et que moi j'aime beaucoup.
Ça m'étonne pas de vous.
Oui, parce que chaque fois qu'on me dit ouais l'électro, des fois je réécoute ces choses-là et ça me paraît, et c'est pas anodin que Tangerine continue, pas toujours pour le mieux, mais quand même que ça, ils ont quand même posé les bases, peut-être paradoxalement encore plus que Kraftwerk, qui sont vraiment les, on va dire, les superstars reconnus par tout le monde, mais qui sont très très définis, reconnaissables. Tangerine Dream a ouvert énormément de portes, je pense, que ce soit sur les boucles. Et ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'on parlait de Nils Fram, qui est du même label, Erase Tapes. Et moi, Nils Fram, par exemple, je ne rentre pas dedans. Pour moi, c'est... Et je me demande, est-ce que la différence, c'est... Je suis beaucoup plus sensible aux gens qui viennent du classique et qui font de la pop, c'est-à-dire qui fuient les contraintes du classique, qui ne supportent pas, pour le mettre au service de chansons. Je trouve que ceux qui se mettent à faire de l'électro, il y a toujours un petit côté faiseur, comme si, bon, c'était un peu facile. Il y a comme à un moment, tous les gens qui ne savaient plus quoi faire du progressif, ils faisaient de la New Age un peu. Quoi. Et ce que je trouve intéressant chez... j'oublie son nom. Ryan West, c'est ça ?
Non. Ryan Lee West.
Ryan Lee West. Ce fait qu'il vient, alors on ne connaissait pas que c'est un guitariste, et c'était le cas. Tangerine Dream, à la base, c'était de la guitare, et qu'ils ont traduit ensuite en synthé à l'époque où ça ne se faisait pas. Et il y a quelque chose d'assez similaire, c'est de comment creuser, tisser, créer un nouveau langage musical hors des sentiers justement du rock qui est établi. Et je retrouvais ces sensations-là, c'est-à-dire qu'en l'écoutant, en me concentrant, il y a une variété, une richesse. Et puis pour revenir aussi à cette image, on peut se dire, oui, plaqué Bergman et tout. Mais ça se tient, quoi. C'est quand il parle de Persona et de Bergman. Ce qu'il explique, c'est, alors peut-être parce qu'il le dit, mais cette idée qu'on écoute cette musique-là, qui est effectivement par définition plutôt froide, et ce qu'on pourra dire de Bergman, qui est à la fois extrêmement froid et en même temps, c'est celui, un peu comme Mike Lee, qui arrive quand même à l'intérieur des gens. C'est drôle, on parlait de Into the Pink tout à l'heure, ou Under the Pink. Là, c'est un peu pareil. C'est ces gens qui arrivent à aller à l'intérieur et qui touchent bizarrement, alors qu'on a l'impression que c'est très, très clinique.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a quelque chose de ça, parce que c'est un disque pas du tout, pas froid du tout à l'arrivée, à partir de quand même de sonorités qui devraient l'être.
Pascaline Podevas, Rival Consoles.
Moi, c'est intéressant parce que le trajet que décrit Hugo, ce truc vers l'extérieur, vers l'intérieur, quelque chose de froid qui devient chaud, c'est exactement de cette manière que j'ai vécu ce disque, en fait. À la première écoute, je l'ai trouvé un peu froid. En fait, j'ai trouvé au début que c'était un disque très bien rangé. Alors, peut-être aussi parce que je me suis documentée sur cet album en lisant des interviews, en lisant des articles. Et il y a beaucoup d'articles qui sont consacrés à Rival Consoles qui parlent du studio, de la façon dont Ryan Lee West travaille en studio, de la façon dont il travaille ses instruments, dont il les choisit, dont il compose, dont il occupe l'espace dans chaque morceau, dont il travaille les textures, les timings, les ruptures. Et du coup, j'avais l'impression d'être dans son studio et finalement d'avoir quelque chose de très beau, mais d'avoir un squelette avec une ossature très élégante, mais quelque chose qui me laissait un petit peu à distance. Et petit à petit, en écoutant le disque attentivement, du coup, ça a commencé à me... C'est comme si les contours du disque devenaient plus flous, plus poreux et... me donner une prise, en fait. Et c'est passé par des sons. Il y a un titre qui s'appelle Be Kind, qui est tout au synthé, avec une espèce de mélodie comme improvisée, presque jazz, qui coule comme ça, qui est très belle. Moi, je sais que pareil, la musique électronique, c'est pas forcément ce que j'écoute le plus, mais quand elle me parle en images. Et petit à petit, il y a des images qui ont commencé à apparaître. La façon dont ils travaillent les synthétiseurs, il y a des chatoiements, des choses qui scintillent, beaucoup de jeux de lumière. Il y a un titre où j'ai presque entendu un bourdon d'orgue, imaginer une église. Et voilà, petit à petit, il y a des choses qui sont apparues, des sensations qui me sont venues. Et c'est là où je me posais quand même la question, mais ce concept de persona, le concept de l'intro du film de Bergman, mais je comprends pas bien. J'ai regardé l'intro sur YouTube pour essayer de vraiment comprendre. Et c'est là où je rejoins Hugo, ce truc d'après ce que j'ai lu, de ce que dit Ryan Lee West, C'est un jeu entre la façon dont on se perce à soi-même, la façon dont on est perçu. Et là, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est un disque qui, comme vous disiez, au départ est perçu comme un peu froid, un peu lointain, et qui finalement arrive à laisser prise à... Pardon, arrive à ce qu'on s'abandonne en lui. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est un mouvement que je trouve intéressant, et c'est un disque que du coup, je réécouterai attentivement.
Oui, bah alors écoute attentive de mon côté aussi. Moi, j'étais passé à côté de Rival Consoles et merci donc Christophe Comte.
Ça parfois.
Bah, très souvent, je le dis à chaque fois d'ailleurs. Mais c'est vrai que alors pour le coup, moi, j'écoute beaucoup d'électro, mais quand j'écoute d'électro, j'entends surtout et souvent des machines. Et c'est vrai que là, on entend quelqu'un, ce qui est tout à fait différent. Il y a vraiment une présence, celle de Ryan Lee West, à l'évidence, qui fait qu'il y a une forme d'incarnation à travers les machines, ce qui est très étonnant. Mais bon, son passé de guitariste SPIC, alors ça m'a réjoui aussi de lire que un concert de Slow Dive l'an dernier l'avait inspiré, donc ça a évidemment fait vibrer ma corde sensible. Mais pour le coup, j'ai lu après les entretiens ou les petites notes qu'il y avait dans le dossier de presse, mais j'avais retrouvé ça, cette sensation d'une écriture singulière, personnelle, et vraiment les synthés, les ordinateurs étant des instruments comme d'autres pour lui. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez déjà vu se produire.
J'ai manqué Christophe. De le voir samedi parce qu'il jouait à la Gaîté Lyrique samedi dernier, enfin pas ce samedi-là, l'autre avant. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait justement. Est-ce qu'il prolonge sur scène?
Parce qu'on imagine que ça peut charnel, partir assez loin aussi.
Oui, alors est-ce que c'est quelqu'un derrière un ordinateur et simplement voilà qui avec des jeux de lumière, on en voit beaucoup, ça peut être très beau, mais enfin souvent un peu rébarbatif. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un dispositif, ça je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je pense qu'il peut être amené à faire des installations. Il y a un album qui sort bientôt de quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Netrix Point Never, qui est un autre grand créateur.
On a parlé du précédent.
C'est un album extraordinaire, hein, le prochain, et il est lié à toute une installation qui a lieu à New York en mai, avec pendant 3 jours beaucoup de formes de création d'installations qui permettent peut-être de faire vivre cette musique autrement que par le concert, parce que le concert souvent ça reste quand même un peu rébarbatif. Hein. Moi qui lis souvent la revue The Wire en Angleterre, je m'amuse toujours à voir leurs photos de concert où il y a systématiquement 4 mecs derrière des ordinateurs. ils envoient toujours un photographe alors qu'en fait ça ne sert absolument à rien parce que c'est toujours les mêmes. Mais voilà, je trouve qu'il y a un potentiel visuel chez cet artiste qui a peut-être pas les moyens d'aller plus loin justement dans le prolongement de sa musique, mais ça serait intéressant qu'il y ait un moment qu'il puisse avoir une exposition aussi importante que d'autres, comme Nils Fram, pour avoir peut-être les moyens de faire autre chose que de la musique.
Un petit mot encore, Pascaline Potdevin.
Non, mais ce rapport au visuel, ça m'a fait penser aussi à 2 autres artistes qu'on peut peut-être rapprocher de Rival Consoles. Il y en a un, c'est Floating Points, qui fait des magnifiques albums comme ça d'Electronica, très charnel, très organique, et qui a sorti, je crois, l'année dernière, une sorte de EP, mais avec une longue vidéo tournée dans le désert Mojave, je crois, qui était assez belle. Et un artiste que j'avais vu il y a 2 ans, je crois, aux Nuits Sonores, qui s'appelle Max Cooper, qui est un anglais biologiste, tout de la même manière que, je n'ai plus son nom en tête, mais le garçon de Floating Point, c'est aussi un scientifique, et qui s'accompagnait de vidéos graphiques qui évoluaient au rythme de la musique. C'était assez beau, et effectivement, ça permet de rendre les concerts moins rébarbatifs, et c'est tout un courant que je trouve très intéressant.
Si je peux rajouter juste quelque chose, je pense que tous les noms qu'on a cités là sont des gens qui créent la musique d'aujourd'hui, qu'on découvrira peut-être plus tard comme étant vraiment la musique d'aujourd'hui. Et c'est dommage que cette musique-là ne soit pas un peu mieux mise en valeur, mise en relief.
Bon, on en aura parlé à la dispute, quoi qu'il en soit.
Max Cooper,
c'était lui. Persona de Rival Consoles, écoutez-le attentivement, ce disque sorti chez Erased Tapes.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute musique avec l'album Center Desire de JC Satan, 5e album du groupe mené par les Bordelais Arthur et Dorian, qui ont choisi cette fois d'enregistrer avec leur groupe, ce qu'ils ne faisaient pas avant. On écoute tout d'abord un extrait de l'album au titre délicieux, No Brain, No Shame. « Alors non, ce n'est pas un des nouveaux morceaux d'ABBA que le groupe a enregistré. C'est JC Satan et c'est Hugo Cassavetti qui commence à nous en parler.
Ah, je crois que c'était, on avait retrouvé en fait le groupe du type de Rival Consoles.
Peut-être. Il est de Bordeaux.
Et pourquoi il est passé à autre chose? Eh ben, eux non. Ça fait quoi, 12 ans? Non, mais voilà, on va dire, voilà, pour moi, c'est plus un groupe très sympathique, quoi. C'est un groupe, je crois qu'ils ont déclaré un jour qu'un groupe qui n'est pas meilleur, sur scène que sur disque, est une escroquerie. Qui se rassurent, je pense qu'ils sont meilleurs sur scène que sur disque. Ça a toujours été l'intérêt de JC Satan. C'est, ça part dans tous les sens. Et dans cette scène française avec laquelle j'ai beaucoup de mal, je le dis souvent ici, des espèces d'électropop insipides au kilomètre. En plus, c'est sur ce label Born Bad qui défend ça de façon un peu militante, des groupes un peu... voilà, un peu, c'est du brut, c'est du lourd. Tout ça a démarré par des gens qui ne savaient pas jouer, mais qui faisaient juste du raffu, du boucan, qui pensaient rien faire. Et là, ils se retrouvent 12 ans plus tard, un cinquième album. De là à l'écouter attentivement, c'est bien fait, hein. C'est pas pire que 50 000 disques américains qui sortent. C'est même assez marrant parfois. Il y a des titres, voilà, Drink Dope and Debauchery, celui qu'on vient d'écouter. Il y a des formules. Voilà. Je trouve ça éminemment sympathique, mais au bout d'un moment, combien de disques comme ça j'ai réellement envie d'écouter? Le morceau qu'on vient d'écouter, celui-là qu'on vient de passer, voilà, mon côté un peu old school. Je me dis, j'ai des disques de Edgar Breton il y a 40 ans qui font le même bruit, mais ça se faisait dans les squats de Portobello. C'est important que ces groupes-là existent encore. Je trouve que c'est des bouffées d'air frais quand on les voit sur scène, parce que ça, voilà, ça part, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses, ils le font pour ça, et tant mieux. Après, si on a, voilà, ce qu'on disait, on met ça chez nous, voilà, ma patience est un peu à des limites, et pourtant, je pense que des trois, a priori, je suis celui qui préfère le boucan un peu lourd et gras.
Non, c'est pas votre cas, parce qu'Aline...
Mais si, justement, trompez-vous, moi j'aime le boucan lourd et gras, et j'aime le stoner, et c'est un disque de stoner, je trouve. Et alors, qu'est-ce que le stoner? Donc, Qu'est-ce que le stoner?
Faisons un point stoner.
Non, mais le point stoner, donc une musique grasse et lourde, comme vous dites, avec souvent des riffs très très répétitifs et des emprunts au psychédélisme et à la pop dans les chœurs, donc dont les meilleurs, enfin les dignes représentants sont les Queen of the Stone Age. Et je trouve que, sans aller jusqu'à dire que c'est aussi, enfin que c'est comme les Queen of the Stone Age qui ont quand même un peu baissé.
C'est pas pire, on va dire.
Voilà, moi j'aime beaucoup les Queen of the Stone Age et notamment l'album
Song for the Dead. Voilà,
qui est un de mes, à moi c'est un de mes classiques, Song for the Dead, vraiment. Et donc du coup je retrouve ça, ce côté stoner, méchant, sale, répétitif. Moi j'aime beaucoup et je trouve que le disque est bien parce que il y a des repères pop, des motifs hard, des repères pop et des motifs un peu hard rock, des chœurs qui empruntent aux Pixies, aux Breeders, ce genre de choses, qui rendent l'ensemble un peu plus intelligible que ce qui pourrait être juste une espèce de soupe bruyante et grasse, comme vous dites. Donc du coup, j'aime beaucoup le disque, vraiment.
De là à le réécouter souvent.
J'aime beaucoup. Et de là, surtout, aller les voir en concert.
Ça, c'est certain, ouais. Je vais donner les dates.
Non, je vais juste dire, parce qu'on a cité deux groupes, là. Queen of the Stone Age est un groupe que j'aime bien, mais je n'ai jamais compris l'impact qu'ils ont eu. Et l'autre référence qu'ils donnent et que vous avez cité, c'est les Breeders. Et s'il y a bien un groupe, un disque dans ce registre-là que je trouve excellent, vraiment nettement au-dessus à tous les niveaux, c'est celui des Breeders, sorti il y a deux mois. Et voilà, quand j'ai envie d'écouter un disque comme ça, je mets celui des Breeders où il y a tout. Il y a le son, il y a le raffu, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a de l'émotion.
Christophe Comte.
Alors moi j'ai bien aimé aussi cet album qui est sans prétention. Il y a quand même, faut voir dans l'histoire du rock français, ce garage rock français provincial, parce que de fait les gens ont un garage en province, pas à Paris.
Ouais, c'est trop cher.
Non mais c'est vrai, entre les thugs à une époque, il y a eu toujours ce monde un peu souterrain qui souhaite rester souterrain. Parce que quand on lit leurs interviews en même temps, on sent bien qu'ils sont contents d'être un peu en marge, de ne pas être sur des major compagnies, d'avoir leur petit public, leur salle, leur réseau de salles. On sait très bien qu'ils aimeraient bien signer sur un gros label, mais qu'en même temps, ils ne feraient pas la même musique. Et je trouve qu'à l'usure, j'allais dire à l'usage, mais plus à l'usure, ces groupes commencent à remonter. Et le garage rock est quelque chose aujourd'hui aux États-Unis qui est devenu à nouveau branché avec les COCs, etc., qui sont d'ailleurs des groupes dont ils sont assez proches. Je crois qu'ils ont même joué ensemble. C'est sympathique, mais après on se dit, les limites de cette musique, c'est qu'elle est, elle est très limitée, c'est bien le problème. Et qu'au bout d'un moment, on a beau rajouter. Alors, j'ai lu des interviews de Arthur, le leader, qui est fan des Beatles. Et à un moment, il y a un journaliste très courageux qui lui dit : je trouve que cet album ressemble à Sgt. Pepper. Il dit : dans mes bras, mon ami.
Bah, oui.
Et moi, quand je l'ai écouté, je suis désolé, j'ai pas entendu Sgt. Pepper.
Bah,
il parle aussi du premier album de Pink Floyd, qui est une référence pour lui. J'aimerais que. Alors, ça s'entend un peu plus dans certains éléments qui sont rajoutés au raffut. Il y a des petits trucs de production pas mal, un peu psyché, mais ça reste toujours des groupes qui ont une très très grande arrogance quand on les lit, parce qu'on a l'impression que
parce
tout
que
le monde
autour d'eux... Parce que c'est pas partie du truc, la posture, comme
voilà,
ça,
bon, non bah c'est, mais c'est... Oui, ça fait partie de la posture, ils ont l'air toujours un peu renfrognés.
Sont-ils vraiment antipathiques
avec des Non, ils sont sans doute très sympathiques, mais ils se donnent cette image-là, ils balancent un peu sur leur... À un moment, il y en a, dans une interview récente, il dit « Heureusement qu'on fait pas des concerts avec ce groupe de variété qui est Bagarre. » Alors bon, Bagarre, c'est pas vraiment un groupe de variété, enfin, c'est toujours un peu le côté, c'est le concours à chaque fois de celui qui est le plus méchant, le plus underground surtout, ce qui au bout d'un moment fatigue un peu. Mais ce disque-là, comme le précédent, avec une production un peu plus solide, un peu plus tenue, arrive à opérer. Il y a quelque chose d'indéniablement
fort. Il y a une efficacité.
Dans leur, et contrairement à mes collègues, moi, j'ai absolument aucune envie de les voir sur scène. En revanche, parce que, ayant souffert d'acouphènes, je m'abstiens maintenant d'aller dans ce genre de concert, même si sans doute c'est très spectaculaire. Mais moi, les gens tatoués qui plonge dans la foule, ça m'a jamais excité. Donc
bon, donc on ne verra pas Christophe Comte dans les villes suivantes, aux dates suivantes que je vais citer, donc pour ce Disc Center Design de JC Satin chez Born Bad Records. Alors sur leur site, j'ai trouvé qu'ils étaient le 4 mai, donc dans 3 jours à Paris, mais je ne sais pas dans quelle salle, parce que ce n'est pas
station.
Indiqué. C'est
à la station, station
heureusement
crois,
vous êtes là, parce qu'allez, vous y serez, j'imagine.
Ben, voilà.
18 mai, Saint-Cadou, vous y serez également, non peut-être pas.
Non,
19 mai à Nantes, 20 mai à Tours, 8 juin à Gigors, 9 juin à Sifour-les-Plages, et puis une tournée italienne, figurez-vous, pour JC Satin. Giustale, Ravenna et Teramo, c'est au mois de juin, et puis 15 juin plus près de chez eux à Castres. Et pour conclure cette émission, le jeu de la dispute est Camille André qui nous a rejoint pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir avant de nous donner la réponse.
Qui a écrit et joué le rôle principal de la pièce de théâtre intitulée Sherlock Holmes en 1899 ?
J'étais. Je peux le dire ou pas ? Non, je ne me rappelle plus de son nom.
William Gillette.
Voilà, William Gillette, je savais bien. On fait gagner ce soir le DVD du film de Francis Lee, Seule la Terre, un film distribué par Pyramide. Quelle est la question ?
Eh bien, ce film a gagné l'Hitchcock d'or, récompensant le meilleur film britannique au Festival de Dinard. Depuis sa création en 1991, seule une femme a reçu ce prix. De quelle réalisatrice s'agit-il ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut également réécouter l'émission et bien sûr s'abonner à son podcast. Demain, 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques. On sera avec Corinne Rondeau, Sandra Adankourale et Stéphane Coréard et on parlera de Chagall, Lissitsky, Malevitch, l'avant-garde russe à Vitebsk. C'est au centre Pompidou. On parlera de l'exposition de la Fondation Louis Vuitton au diapason du monde et puis Rodin et la danse au musée Rodin.